Il est 13h sur France Inter. Et Cécile Bideau nous présente le journal. Bonjour.
Bonjour. Le pass sanitaire s'impose dans nos vies dès lundi. La loi qui élargit son utilisation a été publiée au journal officiel ce matin. Mais le gouvernement promet une certaine tolérance dans les contrôles la première semaine. Parmi les secteurs où il faudra en passer par là, les transports, nous verrons dans quel cas et dans quelles conditions. La quatrième vague de Covid-19 se fait sentir à l'hôpital. Les chiffres continuent d'augmenter, mais ceux de la contamination ont cessé de monter. Il y a donc des raisons d'espérer. Dans ce journal, nous sommes en Grèce. Les incendies sont aux portes d'Athènes et les habitants dénoncent l'inaction des pouvoirs publics. À Pékin, qui accuse les États-Unis d'ingérence, le président américain accorde un asile temporaire aux Hongkongais. Et puis à Tokyo, où les handballeuses françaises sont qualifiées pour la finale des Jeux Olympiques et où l'athlète américaine Allyson Felix va peut-être devenir aujourd'hui à 35 ans la plus grande collectionneuse de médailles de l'histoire.
France Inter.
Le pass en express. Quelques heures après la validation du Conseil constitutionnel, la loi relative à la gestion de la crise sanitaire est déjà promulguée, publiée au journal officiel ce matin. Elle commencera à s'appliquer lundi et court jusqu'au 15 novembre. La principale mesure qui nous concerne tous, quasiment dans tous les domaines de notre vie quotidienne, c'est l'élargissement du pass sanitaire. Il faudra montrer la preuve d'une vaccination complète ou d'un test négatif ou bien encore un certificat de rétablissement du Covid-19 pour fréquenter les cafés, les restaurants, les foires et salons, les centres commerciaux dans certains cas et également les transports en commun. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
À partir de lundi, où faudra-t-il présenter son pass en plus de son ticket ?
Il sera exigé dans tous les transports de longue distance, avions, autocars et trains. À la SNCF seront concernés les TGV Inouï et Ouigo, les trains intercités de jour comme de nuit ainsi que les trains internationaux. La règle est simple, chaque passager pourra être contrôlé à l'embarquement, pendant son voyage ou à l'arrivée. Si le pass sanitaire est à jour, pas de problème. En revanche, s'il n'est pas à jour, dans les gares, tout dépendra du moment où a lieu le contrôle. S'il est effectué avant le départ du train, le billet sera échangeable ou remboursable sans frais, mais pas si le contrôle a lieu à bord ou à l'arrivée du train. Les récalcitrants risquent en plus, dans ce dernier cas, une amende de 135 euros.
Alors Fabien, lundi, c'est presque demain. Les réseaux de transport sont-ils prêts à effectuer ces contrôles ?
Alors c'est justement du côté de la SNCF que ce sera le plus compliqué. Le patron de la filiale SNCF Voyageurs parle de véritables défis opérationnels. Dans les faits, tous les voyageurs ne pourront pas être systématiquement contrôlés, reconnaît-il. Mais des gilets bleus, en plus des gilets rouges, vous savez, ceux qui font l'information en gare, eh bien, des gilets bleus seront déployés dans les gares pour renseigner les voyageurs spécifiquement sur les questions de pass sanitaire. Dans les aéroports, ce sera plus simple car les passes étaient déjà exigés à l'embarquement pour les vols internationaux ainsi que pour la Corse et l'Outre-mer. Il s'agit simplement d'une extension à l'ensemble des vols intérieurs. Quant aux autocaristes, ils se disent sereins. Là, ce sont les déplacements interrégionaux et internationaux qui sont concernés. Des agents seront recrutés dans les gares routières pour aider les conducteurs à procéder au contrôle en cas d'affluence.
Le défaut de passe sanitaire pourra donc être sanctionné par une amende de 135 euros. Mais le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, promet une certaine tolérance pour la semaine prochaine.
Il y a une semaine de rodage dans la mise en place du pass sanitaire. Mais de la même manière que lorsqu'il s'est mis en place, je crois que c'était le 21 juillet, pour un certain nombre d'activités de loisirs ou de culture, il y a eu une semaine de rodage, une semaine de mise en place, où évidemment les contrôles ne vont pas servir à sanctionner, mais d'abord à accompagner, à faire de la pédagogie. C'est un outil nouveau pour énormément de professionnels. Il faut qu'ils puissent se l'approprier, qu'ils voient comment ça fonctionne. Ça a évidemment un impact que nous ne minorons pas dans leur organisation au quotidien, notamment quand on est restaurant, qu'on a une grande terrasse, évidemment que c'est une contrainte supplémentaire. Mais je veux vraiment insister sur le fait que c'est cette contrainte qui nous permet de garantir à ces lieux qu'ils peuvent rester ouverts dans un contexte où l'épidémie circule beaucoup.
Le porte-parole du gouvernement en visite à Avignon ce matin. L'autre grande mesure de cette loi, c'est la vaccination obligatoire pour les soignants et d'autres professions en contact avec des publics fragiles. Ils ont jusqu'au 15 septembre pour effectuer une première injection, jusqu'au 15 octobre pour avoir un schéma vaccinal complet. Et on apprend aujourd'hui que les militaires seront également soumis à cette obligation. Les gendarmes qui sont sur le terrain au plus près des populations seront-ils concernés, Emmanuel Leclerc ?
Eh bien non, ils ne sont pas concernés, les gendarmes, pour l'instant, par l'obligation de se faire vacciner. Ils ont certes encore le statut militaire, mais ils dépendent évidemment du ministère de l'Intérieur, où l'ont confirmé ce matin que la réflexion est en cours, mais que la question ne devrait pas se poser réellement avant la mi-septembre. Il n'était sans doute pas possible non plus d'imposer la vaccination chez les gendarmes sans la rendre obligatoire pour les policiers. Et la question ne s'est pour l'instant tout simplement pas posée, confiée il y a une heure un proche du ministre de l'Intérieur, même si, poursuit-il, cela paraît inéluctable si jamais les variants continuent de se propager à cette vitesse. Du côté des syndicats, on avait demandé un large accès à la vaccination pour les agents en mars dernier et ça a très bien fonctionné, disent-ils. Mais de là à rendre le vaccin obligatoire, ce sera forcément sensible, selon un responsable que nous avons pu joindre ce matin, quand on voit, dit-il, à quel point ça l'est déjà chez les pompiers, par exemple.
Merci Emmanuel Leclerc. Je vous rappelle que deux paragraphes du texte de loi ont été censurés. L'isolement obligatoire des personnes malades jugées attentatoires aux libertés individuelles et la possibilité de mettre fin au CDD d'un salarié en contact avec le public qui refuserait de se soumettre au pass sanitaire. En revanche, les employés titulaires en CDI pourront voir leur contrat de travail et donc leur rémunération suspendue. Les opposants au pass sanitaire maintiennent la pression. Ils ont prévu de manifester de nouveau demain partout en France pour le quatrième week-end consécutif. Et dans de nombreuses régions, des tensions sont signalées entre pro et anti. Certains pharmaciens qui pratiquent les tests sont pris pour cible, mais également des lieux de loisirs, comme ici dans le Grand Est. Anna Huot.
Dans une salle de sport de la Marne, par exemple, une employée a été prise à partie par un usager. L'homme s'énerve, se met à crier « Vous êtes tous des collabos !» Puis il force l'entrée de la salle, il recommencera le lendemain. Une plainte est finalement déposée. Dans d'autres salles de sport, même histoire, je ne vais pas risquer de me prendre un pain en empêchant les abonnés d'entrer, raconte une salariée. Des abonnés qui vont jusqu'à lui souhaiter que sa boîte coule. Ces menaces se retrouvent aussi sur les réseaux sociaux. Laurent Mancy est le gérant de Jimbaloo, une aire de jeux géante à Reims, et il en a fait les frais.
Ce qui fait un petit peu mal, c'est quand on nous traite de collabos. C'est des choses complètement excessives, alors que franchement, nous, on ne fait qu'appliquer la loi. C'est pas à nous d'aller manifester. Nous, ce que l'on veut, c'est ouvrir et pouvoir offrir du jeu aux familles.
Dans les Ardennes, le château fort de Sedan ne fait pas exception. Boycottons ces collabos qui n'ont rien dans le pantalon, peut-on lire sous leur dernière publication Facebook, qui notifie l'obligation du pass sanitaire.
Anna Huot de France Bleu Champagne. Toutes les dispositions désormais inscrites dans la loi que vous retrouvez sur franceinter.fr permettront au gouvernement de déployer sa stratégie de lutte contre le Covid-19, a dit hier soir le Premier ministre Jean Castex, car le nombre d'hospitalisations en soins critiques continue d'augmenter. Le temps de la vague hospitalière est venu, selon le ministre de la Santé. Bonjour Hélène Chevalier.
Bonjour.
Santé publique France vient de publier son bilan hebdomadaire. Est-ce que ça se vérifie dans les chiffres?
Ah oui, il confirme le retentissement de cette quatrième vague dans les hôpitaux avec près de 750 admissions hebdomadaires en réa. C'est deux fois plus que la semaine précédente. Les chiffres sont certes encore bas, loin des niveaux de la deuxième ou troisième vague. Mais s'ils doublent d'une semaine sur l'autre, les services vont se retrouver à nouveau sous très forte tension car ils doivent aussi faire face à des pénuries importantes de personnel. Actuellement, ce sont surtout les établissements de Corse, PACA, Occitanie et d'outre-mer qui sont les plus impactés. Un chiffre à retenir également ce matin, ceux de l'adresse sur le statut vaccinal des patients hospitalisés. Selon la direction statistique des ministères sociaux, fin juillet, 9 patients en soins intensifs sur 10 n'étaient pas vaccinés.
Mais il y a quand même une lueur d'optimisme. Hein. Les contaminations ont arrêté d'augmenter.
Oui, les taux d'incidence sont toujours en progression, mais de façon moins forte que les semaines précédentes. Un premier signe encourageant, c'est la tranche des 20-29 ans. Si elle reste la population la plus touchée, le nombre de contaminations pour 100 000 habitants est le seul à diminuer. Moins 6%. Autre petit signe d'espoir, le nombre de personnes qu'un cas positif va contaminer, le R effectif, continue lui aussi de descendre. Mais les épidémiologistes de Santé publique France préfèrent rester prudents. La période estivale avec beaucoup de mouvements de population n'aide pas à l'interprétation des données. Il faudra encore attendre, Cécile, les chiffres de la semaine prochaine, voire de la semaine suivante pour confirmer une éventuelle amélioration.
Hélène Chevalier, chef du service santé de France Inter. Dans le monde, 200 millions de personnes ont été infectées par le coronavirus depuis le début de l'épidémie il y a un an et demi. La Chine promet de partager 2 milliards de doses de vaccins avec le reste du monde et de faire un don de 100 millions de dollars au système COVAX qui organise la répartition des flacons dans les pays les plus pauvres.
France Inter, le journal de 13h. Cécile Bideau.
Des pompiers français viennent prêter main forte aux Grecs pour lutter contre les flammes. Environ 80 soldats du feu sont arrivés hier soir depuis Marseille. Depuis une semaine, les incendies, combinés à des températures qui dépassent les 40 degrés, consument le pays. Une cinquantaine seraient encore actifs aujourd'hui, notamment au pied du Montparnasse au nord d'Athènes. Une trentaine de kilomètres seulement séparent la capitale grecque des flammes. Et chez les habitants, la colère commence à prendre le pas sur le désarroi. Un reportage de l'envoyé spécial de France Inter, Julie Pietri.
Athènes ne voit plus ni le soleil ni le ciel bleu. Un épais brouillard gris obscurcit le ciel. Cette nuit, ce matin encore, aucun incendie n'a été maîtrisé dans le secteur. Yorgos, habitant de la capitale, est désabusé.
Le paradis ici, on l'a eu. Maintenant, on va aller en enfer, puisque rien n'est géré par les autorités. Quand le feu a commencé à Varibombi, on a vu une colonne de fumée et on nous a dit que tout était sous contrôle. Et voilà le résultat.
Au bord des larmes, Mirales, élu d'une commune évacuée, prend sa part de responsabilité.
Je n'attribue pas la responsabilité à quelqu'un en particulier et je me mets moi-même dans le lot. Mais je pense qu'à une époque où nous pouvons voyager dans l'espace pour notre plaisir, il doit y avoir un moyen de nettoyer les forêts en amont, d'installer un système d'extinction d'incendies automatique pour empêcher qu'une telle catastrophe ne se produise.
Le gouvernement ne semble avoir qu'une solution, déployer les avions et hélicoptères disponibles, les pompiers et évacuer des centaines de personnes. C'est le travail aux portes d'Athènes d'Anthony Tchekonesh de la Croix-Rouge grecque.
On a dû faire sortir les gens de leur maison, certains ne voulaient pas. On a dû les convaincre de partir. C'était vraiment bouleversant parce qu'ils sont en train de perdre leur maison.
Aujourd'hui, 80 pompiers et militaires français doivent être déployés sur place en renfort avec du matériel.
Le site antique d'Olympia, quant à lui, était sauvé. L'incendie qu'il menaçait a été circonscrit, mais les pompiers restent mobilisés par crainte d'une reprise. La situation est toujours critique sur l'île de Bé. La force des Nations Unies au Liban qualifie ce midi de très dangereuse l'escalade militaire entre Israël et le Hezbollah. Ces deux derniers jours, une dizaine de tirs de roquettes ont été effectués sur Israël depuis le sud Liban. L'armée israélienne a riposté et visé des infrastructures du Hezbollah installées au Liban. Les États-Unis ouvrent leurs portes aux ressortissants de Hong Kong. Le président Joe Biden a annoncé hier qu'il offrait un asile temporaire aux Hongkongais actuellement présents sur le sol américain. Il estime en effet que la loi de sécurité nationale votée par la Chine restreint les libertés des habitants de Hong Kong. La Chine a évidemment immédiatement réagi à Pékin. Stéphane Pambrin.
La réaction de la Chine ne s'est pas fait attendre. Pékin parle d'ingérence grossière dans ses affaires internes et affirme que la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong a permis au contraire de restaurer l'état de droit. Mais plus d'un an après son entrée en vigueur, elle a surtout servi à bâillonner le mouvement démocratique. Une centaine de personnes ont été arrêtées et les condamnations pleuvent pour sécession ou terrorisme, c'est selon, avec des peines très lourdes qui peuvent aller jusqu'à la prison à vie pour avoir simplement manifesté son opposition à la Chine. Il s'agit de procès politiques, selon Washington, qui a donc décidé d'ouvrir ses portes aux Hongkongais en accordant à ceux qui se trouvent déjà aux États-Unis un sursis de 18 mois avant toute obligation de quitter le territoire américain. Cela concerne des milliers de personnes. Le Royaume-Uni avait aussi décidé dès le 31 janvier de proposer des visas prolongés et la naturalisation aux Hongkongais qui le souhaitent. Le mois dernier, le gouvernement américain a imposé de nouvelles sanctions contre des responsables chinois à Hong Kong et mis en garde ses entreprises contre l'impact de cette loi de sécurité nationale. Pékin, Stéphane Pambrin, France Inter.
Quand l'intelligence artificielle se met au service de la protection de l'enfant, Apple vient de dévoiler de nouveaux outils techniques qui permettent de traquer les prédateurs sexuels qui agissent notamment sur les réseaux sociaux. Aux États-Unis, les iPhones, les tablettes, iPad, mais aussi le cloud, ce serveur de stockage, seront scrutés. Mathilde Dehimi, dites-nous en plus, comment cela va-t-il fonctionner ?
Eh bien, Apple va mettre en place plusieurs outils de cryptographie sur les iPhones et iPad basés aux États-Unis. Ils permettront de rentrer dans les bibliothèques des appareils. C'est une première pour les appareils. Et dans les iCloud, ces espaces de stockage personnel en ligne, pour vérifier qu'ils ne contiennent pas d'images pédopornographiques. Un autre outil permettra aussi une analyse en temps réel au moment d'envoyer ou de recevoir une photo via texto, avec possibilité d'activer de nouveaux filtres parentaux. Cette analyse d'image est purement mathématique. Apple assure qu'il n'a pas accès à ce qu'elle représente, mais à des fichiers de données. Le but, les comparer à la base d'images pédopornographiques recensées par le Centre national américain parrains des enfants disparus et exploités, une association privée. Si ça correspond, Apple pourra notamment le signaler à cette association et désactiver le compte. C'est une brèche dans la philosophie d'Apple, dans les premiers à utiliser le chiffrement de bout en bout et qui refuse depuis toujours cet accès aux autorités policières. Mais c'est pour la bonne cause, justifie en substance le géant de l'informatique. Une ligne rouge est franchie, avancent les défenseurs de la protection de la vie privée, car rien ne garantit ensuite qu'Apple ne scanne ses smartphones sur d'autres sujets.
En France, les chiffres de l'INSEE publiés ce matin sont encourageants. L'emploi salarié privé a progressé de 1,2% au deuxième trimestre, ce qui représente près de 240 000 créations de postes nets. Vous vous en êtes peut-être rendu compte en regardant les étals des marchés. La production d'abricots est au plus bas depuis 42 ans. À cause des gelées printanières, les volumes estivaux sont deux fois inférieurs à la moyenne de ces quatre dernières années. Et de quatre, après les équipes de France masculine de handball, volley et basket, l'équipe féminine de hand est à son tour qualifiée pour la finale des Jeux Olympiques. Face à la Suède ce matin, la victoire a été courte, hein, 29-27. Bonjour Xavier Monferrand.
Bonjour Cécile.
Vous êtes à Tokyo pour France Inter. Les handballeuses tricolores visent désormais la médaille d'or. Hein.
Ouais, effectivement, et elles en veulent encore une parce que leur aventure avait démarré il y a 5 ans aux Jeux Olympiques de Rio avec une médaille d'argent qui avait un goût de victoire. Cette fois, pas question de se contenter de cette deuxième place. L'effet de surprise est passé. Cette fois, c'est le titre et rien d'autre que les Françaises sont venues chercher. Et elles ont fait passer le message aux nouvelles, comme l'ailière Pauline Coatanea qui vit ses premiers Jeux.
Il y a un groupe qui a vécu ça à Rio et qui était déjà contente avec cette médaille d'argent. Mais là, cette année, c'est plus du tout le même objectif. Elles veulent l'or et c'est vrai que ça amène le groupe dans cette direction. Et là, on est déjà focus vers dimanche.
Alors depuis les Jeux de Rio, les Françaises, elles ont grandi. Hein. Elles ont été championnes d'Europe, championnes du monde. L'or olympique, c'est le seul titre qui leur manque. Mais ce soir, Cécile, c'est l'heure de savourer un peu, comme le dit l'arrière Estelle Enzeminko.
Cette soirée-là, c'est la meilleure. Quand tu passes la demi-finale, tu sais que tu vas avoir une médaille. Quand tu gagnes ta demi, t'es bien, quoi. C'est la première fois depuis deux mois que tu te décompresses vraiment, que tu te dis « mais on est là où on avait envie d'être ».
Quelques heures de kiffage, selon les propres mots d'Estelle Enzeminko, car pas question de baisser la garde, l'histoire n'est pas terminée, pas cette fois.
Merci Xavier Monferrand. Objectif final également pour l'équipe féminine de basket qui se bat en ce moment contre le maître des lieux, le Japon. La France mène 22-18 au début du deuxième quart-temps. Le marcheur français Johan Diniz termine sa carrière sur un abandon à 43 ans. Il s'est arrêté à mi-course du 50 km. Il n'aura donc jamais remporté de médaille au JO. On emploie souvent lorsqu'on parle de sport le terme d'historique. Mais avec Alison Félix, il n'est pas galvaudé. À 35 ans, l'Américaine dispute dans un peu plus d'une heure la finale du 400 mètres. Si elle monte sur le podium, elle deviendra l'athlète la plus médaillée de l'histoire des JO. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour Cécile.
Vous êtes en direct du stade olympique de Tokyo. Alors Alison Félix, qui a donné naissance à une fille il y a 3 ans, est un phénomène sur la piste et dans la vie.
Oui, phénomène sportif. D'abord, presque 20 ans de carrière, la Californienne participe à ses 5e Jeux Olympiques et elle a déjà cumulé 9 médailles, tout comme la Jamaïcaine Merlène Otte, sauf qu'Alison Félix, elle en a 6 en or, 3 en argent. Jamais Merlène Otte n'a eu de titre olympique. L'Américaine a tout remporté dans les épreuves du sprint, le 100, 200 et 400 mètres. Et vous l'avez dit, si elle monte sur le podium tout à l'heure à l'issue de ce tour de piste, elle sera seule au sommet de l'athlétisme avec Carl Lewis et ses 10 médailles. Extraordinaire récompense pour celle qui est devenue maman fin 2018. Pendant sa grossesse, son équipementier Nike décide de réduire de 70% sa rémunération. Situation inacceptable pour Alison Félix qui va en faire son combat. Montrer qu'on peut être sportif de haut niveau et mère de famille. Alors militante, présente sur les réseaux, elle ne veut plus dépendre de personne. Alors elle crée sa propre ligne de vêtements. Elle distribue aussi des subventions pour les athlètes qui, dit-elle, ne doivent plus choisir entre la compétition et la maternité. Alors si elle n'a pas encore raccroché ses pointes, loin de là, l'Américaine a déjà une deuxième carrière toute tracée.
Jérôme Val en direct de Tokyo avec les moyens techniques de Radio France déployés sur place. Et si vous voulez poursuivre sur ce sujet, rendez-vous avec le téléphone sonne ce soir à 19h15. Qu'est-ce qui vous inspire chez ces sportifs? Xavier Demagny attend vos remarques et vos questions. Le FC Barcelone n'a plus les moyens de se payer Messi. Le Barça a annoncé hier soir qu'il se séparait de son footballeur star après 20 ans de vie commune. Et ce matin, le président a expliqué son choix. Garder Lionel Messi aurait représenté un risque financier pour le club. Il a également assuré que l'Argentin avait d'autres propositions sans préciser lesquelles. Les supporters du PSG ont déjà commencé à s'enflammer. Le championnat de Ligue 1, justement, commence ce soir. Monaco ouvre le bal et accueille Nantes.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Cécile, bonjour à tous.
Et vous nous promettez une journée plus calme.
Oui, la perturbation qui a transité sur une large moitié nord s'est évacuée, mais elle a laissé quand même beaucoup de nuages dans son sillage. Cet après-midi, les nuages vont s'espacer et laisser apparaître des éclaircies de plus en plus nettes. Entre le nord de la Bretagne, les Hauts-de-France et les Ardennes, des averses pourront se faire remarquer. De petites ondées sont également possibles plus au sud, jusqu'au Poitou-Charentes, au Limousin ou encore vers la Lorraine. Le ciel va bien se dégager vers le Boulonnais et les plages de l'Aquitaine. Et puis encore, c'est entre le Languedoc, le Lyonnais et les Alpes, l'après-midi sera largement ensoleillé. Mais vous me voyez arriver, Cécile, ce calme ne va pas durer, puisque dès cette nuit, des averses orageuses vont débouler par la Bretagne et une dégradation bien pluvieuse, avec aussi des risques d'orage, va se mettre en place sur le sud du pays. Cette dégradation pourra apporter localement des pluies abondantes, demain en particulier sur un axe entre le Gard, l'Isère, les Savoies, voire la Franche-Comté. De la grêle sera même possible l'après-midi. Soyez donc bien prudents si vous êtes dans ces régions. Et puis un mot des températures qui resteront encore un peu justes. Cet après-midi, il fera 19 à 27 degrés en général et 26 à 34 degrés autour de la Méditerranée.
Sébastien Léas de Météo France, merci.